Actes chapitre 10,
des versets 24 à 48. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes devant tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation... celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Avant 1543, on croyait que le soleil tournait autour de la Terre. La Terre était au centre de l'univers et tous les astres tournaient autour du soleil. Le 24 mai 1543, le 24 mai 1543, l'œuvre magistrale de Copernic, écrite 13 ans auparavant, est publiée par un imprimeur luthérien de Nuremberg. Contrairement au système géocentrique, le système où la Terre tourne autour du soleil qui est au centre, jusqu'alors admis, Copernic place le soleil au centre du monde et la Terre devient une planète tournant autour du soleil. C'était un bouleversement pour l'astronomie, la science, la théologie et même la philosophie. C'est le début d'un changement de paradigme, de pensée, de mentalité. Et on appellera plus tard ce bouleversement la révolution copernicienne. Il y a, comme une révolution copernicienne dans le texte que nous allons lire, que nous lisons ce soir. Comment était-il possible pour un juif comme Pierre de concevoir qu'à ce moment-là, Dieu allait donner l'évangile ou allait ouvrir les portes du salut aux nations autres que les juifs? Comment est-ce que c'était concevable pour Pierre? Et c'est pourtant ce qui se passe dans ce récit d'Actes 10. C'est ce qui se passe. Notons d'emblée deux éléments qui montrent l'importance du récit. Deux éléments qui montrent l'importance du récit que nous sommes en train de lire. Tout d'abord, la longueur du texte. Même si nous nous attarderons davantage sur les versets 24 à 48, il est intéressant de noter que le récit débute au chapitre 10, le verset 1, et se termine au chapitre 11, au verset 18. Cela correspond à un total de 66 versets. 66 versets. En comparaison, le récit de la Pentecôte et du discours de Pierre en acte 2 compte 41 versets. Le récit de la conversion de Paul compte 58 versets. Donc 66 versets contre 41 et 58. C'est donc un récit qui dépasse en longueur le récit de la Pentecôte et celui de la conversion de Paul. Deuxième argument qui montre l'importance du récit d'Actes, le récit occupe une place centrale dans le livre des Actes. Nous savons que le livre des Actes est décomposé en deux grandes parties, en tout cas globalement, des chapitres 1 à 12, où on parle plutôt du ministère de Pierre, et des chapitres 13 à 28 du ministère de Paul. Et donc ce récit se trouve à une jonction qui est importante dans le livre des Actes. Et c'est un épisode qui est assez stratégique et qui est décisif dans le livre des Actes. Donc deux éléments que nous pouvons noter, qui sont importants pour étudier ce texte, la longueur du texte et sa place centrale dans le livre des Actes. C'est un bouleversement, un basculement. Ce bouleversement ou ce basculement ne pouvait être l'initiative humaine, d'une initiative humaine. Et c'est ce que nous voyons à travers un regard panoramique de l'ensemble du récit. Donc nous reprenons d'abord l'ensemble du récit, chapitre 10, verset 1, au chapitre 11, verset 18. Et grâce en fait au marqueur temporel que nous laisse l'auteur, le récit se décompose de manière très simple. Nous allons nous concentrer sur les versets 24 à 48, mais il m'a semblé bon de reprendre l'ensemble du récit. Et pour décomposer le récit, l'auteur nous laisse des indices, des marqueurs temporels. Et ces marqueurs temporels, il s'agit en fait du mot « le lendemain ». Et si nous regardons le lendemain, nous le retrouvons d'abord au verset 9 et ensuite au verset 25. Alors, si on regarde bien ce marqueur temporel, en fait le récit se décompose en 4 jours. Donc, le premier jour, les versets 1 à 8, on a la vision de Corneille. Ensuite, le deuxième jour, le lendemain, donc on peut lire à partir du verset 9, des versets 9 à 23a, on a l'extase de Pierre. Et le troisième jour passe très rapidement et on bascule au quatrième jour. On a cette fameuse rencontre à Césarée entre d'un côté Pierre et de l'autre côté Corneille. Donc, des versets 24b à 48. Donc le récit commence par présenter le personnage de Corneille. Je dis simplement, je raconte très rapidement les versets que nous n'avons pas lus ensemble. Les versets 1 à 8. Donc le récit commence par présenter le personnage de Corneille, vivant à Césarée, puis décrit la vision de Corneille. C'est la 9e heure, où il s'agit en fait de 3 heures de l'après-midi. Et dans cette vision, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'un ange de Dieu vient rendre visite à Corneille. Un ange de Dieu vient rendre visite à Corneille et l'informe que ses prières et ses dons sont montés devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Corneille doit envoyer chercher donc Simon, surnommé Pierre, il est logé à Joppé. Et la scène se termine par l'envoi des 3 personnes, c'est le verset 7 et 8. Donc c'est la première journée. On passe à la deuxième journée. Alors le récit oriente maintenant nos regards vers un autre personnage, et c'est Pierre. Et vers midi, Pierre tombe en extase et voit une grande nappe remplie de quadrupèdes, de reptiles et d'oiseaux. Et cette nappe descend du ciel. Et une voix lui ordonne de tuer et de manger. Mais Pierre rétorque qu'il n'a jamais mangé d'animaux impurs, parce qu'en fait, ces animaux étaient impurs, considérés comme souillés et impurs. Et la voix lui dit de ne pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Cela se produit 3 fois, et la voix demande à Pierre de partir avec les 3 hommes envoyés par Corneille. C'est la fin de la 2e journée, et on passe à la 3e journée, il s'agit du voyage des 3 personnes avec Corneille, de Césarée vers Joppé. Et on arrive au 4e jour, celui de la rencontre tant attendue entre les 2 protagonistes, Pierre et Corneille. Et c'est cette scène qui nous occupe plus particulièrement ce soir. Alors, avant de passer à l'étude de ces versets qui nous intéressent, notons simplement comment Dieu a conduit cette rencontre. Et donc, il ne s'agit pas d'une initiative humaine, mais c'est une rencontre qui a été divinement préparée. Préparée au moyen d'un ange envoyé à Corneille et d'une voix et d'une vision à Pierre. Dieu lui-même a minutieusement programmé cette rencontre. Il y a donc un objectif divin. Il y a un objectif divin dans cette rencontre. Faisons maintenant un zoom et on va se concentrer sur donc la rencontre à Césarée, le texte de ce soir, et essayons de mettre en lumière l'enjeu de cette rencontre. Essayons de comprendre quel est cet objectif divin. La situation initiale, donc, on est à Césarée, Corneille attend impatiemment Pierre avec sa famille et ses amis. Il a rassemblé tous ses proches comme s'il allait y avoir un événement important. La scène s'ouvre avec une réaction surprenante de Corneille. Quelle est cette réaction? À la rencontre de Pierre, Corneille se jette aux pieds de Pierre. Et Pierre doit le relever. Comment expliquer une telle réaction? Pourquoi Corneille se jette-t-il aux pieds de Pierre? Et il me semble que les paroles de Pierre, c'est au verset 28, nous le lisons ensemble, Pierre dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Les paroles de Pierre nous aident à comprendre en fait la réaction de Corneille. Parce qu'en fait, derrière les paroles de Pierre, Pierre nous révèle en fait l'identité de Corneille. Et donc pour comprendre la réaction de Corneille, il faut connaître en fait l'identité de Corneille. Et Corneille, qui est-il? Selon le texte, c'est un étranger. C'est un non-juif. Et qu'est-ce que ça signifie qu'être non-juif? Être non-juif, c'est ne pas faire partie de l'élection divine. Ne pas être le peuple élu. C'est ne pas être le peuple de l'Alliance. C'est ne pas être au bénéfice de la promesse faite à Abraham. Il y a là en fait une différence de statut. Considéré comme souillé et comme impur, la loi mosaïque interdisait les relations entre les juifs et les non-juifs. Et selon le début du chapitre, que nous n'avons pas lu, au verset 1 en fait, le texte dit que Corneille est un craignant Dieu. C'est un terme technique qui désignait alors les non-juifs. Mais ces non-juifs, en fait, avaient quelque chose de particulier. Ils adoraient le Dieu unique et observaient la loi juive, la loi morale juive, mais pas toute la loi. Et ces craignants Dieu ne s'étaient pas fait circoncire, donc n'étaient pas considérés comme des juifs. Ils suivaient la loi juive, mais pas toutes les lois rituelles. Donc on les appelait des craignants Dieu. C'est un terme technique. Alors Corneille, il sait qu'il n'est pas juif. Et il connaît qui est Pierre. Parce que le texte met l'accent sur le fait que Corneille a une grande et une profonde humilité. Corneille sait qu'il n'est pas juif, il sait qui est Pierre, et c'est pour ça qu'à la rencontre de Pierre, il se jette à ses pieds. Et en se jetant à ses pieds, Corneille montre à la fois de nouveau sa profonde humilité, et il se reconnaît, il se sait non-juif, avec toutes les implications que ça engendre. Mais Corneille n'est pas tout seul. Corneille n'est pas tout seul et il est avec sa famille, ses proches. C'est une grande fête qui se prépare et Corneille a invité sa famille, ses proches, ses amis. Et c'est donc autour de Corneille toute une communauté qui se rassemble, et une communauté non-juive, une communauté païenne. Et il me semble qu'ici, Corneille joue ici le rôle d'un représentant. Corneille représente le monde non-juif, ce qu'on appelle le paganisme. Concernant la personne de Pierre, pas de surprise, nous le connaissons tous, c'est un juif. Et Pierre n'est pas tout seul aussi. Pierre est accompagné par trois personnes, trois juifs, et il me semble qu'ici, Pierre joue aussi le rôle d'un représentant, et il représente les juifs, il représente le judaïsme. Chaque personnage représente une catégorie humaine. Donc pour Pierre, c'est le judaïsme, les juifs. Et pour Corneille, ce sont les non-juifs, le paganisme. Et c'est ici, en fait, si on comprend bien ce que le récit essaye de nous de mettre en place, c'est la rencontre, en fait, entre le judaïsme d'un côté et le paganisme. C'est une rencontre entre deux catégories humaines, que sont les juifs et les non-juifs. Et au sein de cette rencontre, en tout cas à l'issue de cette rencontre, il va se passer quelque chose. Et c'est ce que je vous propose de continuer à regarder. On va regarder les versets 30 à 33. Et qu'est-ce qui se pose, en fait, qu'est-ce qui pose problème dans le récit? Qu'est-ce qui pose problème dans le récit, en dehors du fait que ce soit une rencontre juif-non-juif? Qu'est-ce qui pose problème dans les versets 30 à 33? Dans les versets 30 à 33, Corneille répond à Pierre. Pierre a demandé, si nous regardons le verset qui précède, « J'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. » Je vous demande donc quelle est la raison pour laquelle vous m'avez fait venir. Et Corneille répond, donc ce sont les versets 30 à 33. Et la réponse de Corneille oriente et conduit vers le nœud du récit. La réponse de Corneille conduit vers le nœud du récit. Et nous lisons cette réponse à la fin de ces quelques versets, c'est le verset 33. Lisons ensemble. « J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Quel est le nœud du récit? Quel est le manque ou le problème? C'est que Corneille attend. Corneille attendait Pierre, on le voit dans le verset 24. Et le texte aussi laisse suggérer que Corneille était dans une attente. Il attendait que quelque chose se passe, en tout cas que quelque chose se passe dans sa vie. Et là, au verset 33, Corneille attend ce que Pierre va dire, à savoir ce que Pierre va rapporter comme parole de Dieu. Donc, Corneille attend la parole de Dieu qui va lui être adressée. C'est un petit peu le nœud du récit, le nouement, c'est le manque qu'il y a dans le récit. Et l'ensemble du discours de Pierre, donc les versets qui vont des versets 34 à 43, correspondent à la parole que le Seigneur adresse à Corneille et à sa famille. Ce discours comporte à la fois une interprétation de sa vision, la vision de Pierre que nous n'avons pas lue, mais qui se situe dans les versets 11 à 16, et c'est à la fois une prédication de l'Évangile. Donc c'est une interprétation des versets 11 à 16 que nous n'avons pas lue, et une prédication de l'Évangile. Pierre, en effet, révèle ce qu'il a compris en fait dans sa vision. Dans sa vision où cette voix, cette nappe qui descendait du ciel, Pierre a compris que quelque chose. Et donc, dans ce que Pierre a compris, en fait, il faut regarder le discours de Pierre. Lisons simplement le verset 34. D'abord, en vérité, donc Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toutes les nations, toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Quand même, il vient de saisir quelque chose. Dans sa vision, il voyait une nappe avec des animaux qui étaient impurs et Dieu lui demandait de tuer et de manger en fait ces animaux. Et en fait, on se rend compte tout au long de l'histoire, de la lecture du récit, que Pierre a fait une transposition. Et Pierre est en train de faire une transposition. D'animaux impurs qu'on n'a pas le droit de manger, Pierre est en train de suggérer, en tout cas dans son discours, et Pierre semble avoir compris que, quelque part, ces animaux impurs, ben, c'est peut-être ces non-juifs auxquels Pierre est invité, chez qui en tout cas Pierre est invité. Regardons de plus près, de nouveau, le discours. Et ce discours est particulièrement bien organisé. Il suffit en fait, et je suis assez quand même content de voir à quel point Luc écrit bien, il suffit de regarder les pronoms personnels. Et les pronoms personnels nous guident en fait, dans la structure de ce discours. Les pronoms personnels qui sont « je »,« vous », »,« nous » et « tous les prophètes ». Le « je » à partir du verset 34, Pierre comprend sa vision et tire une conclusion d'une question de nourriture, c'est ce que nous venons de voir. « Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur », il te transpose vers une perspective humaine. Dieu est impartial. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ensuite, à partir du verset 37, nous passons au « vous ». Et que dit-il du « vous » ? Il s'agit de Corneille et de ses proches. Corneille et ses proches connaissent ce que Dieu, Jésus a fait. Et ils savent que Dieu était avec Jésus. Le « nous », le verset 39, à partir du verset 39, Pierre et les disciples sont témoins de la mort et de la résurrection du Christ. Et chose intéressante à noter, regardons de plus près, à partir du verset 39, Jésus a ordonné à Pierre et aux disciples de faire quelque chose. Jésus a ordonné aux disciples et à Pierre de faire quelque chose. Et le texte, en fait, est très littéral. Verset 42, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Vous vous souvenez de ce que Corneille disait à Pierre au verset 33 ? « On est là. » Et dis-nous ce que le Seigneur t'a dit de nous dire. Et là, en fait, on a la réponse de Pierre, me semble-t-il. Jésus a ordonné que nous prêchions au peuple et que nous attestions qu'il est juge des vivants et des morts. C'est, il me semble, la réponse à Corneille. Nous passons aux prophètes, en fait. Donc, je, nous, vous et les prophètes. C'est à partir du verset 43. Tous les prophètes témoignent. Et il témoigne que quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Résumons, parce qu'on a dit pas mal de choses. Le discours de Pierre correspond aux paroles que Dieu adresse à Corneille et à sa famille. Le discours de Pierre correspond aux paroles que le Seigneur adresse à Pierre, à Corneille et à sa famille. Et dans cette parole, le lecteur comprend que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire qu'aucun homme est impur aux yeux de Dieu. Aucun homme n'est impur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas contradictoire avec le fait que Dieu a d'abord donné sa parole aux Juifs. Cette parole annonce avant tout la paix par Jésus-Christ. Les prophètes et les apôtres témoignent et attestent de l'œuvre de Jésus. L'œuvre de pardon obtenue est accessible à tout homme qui croit en Jésus-Christ. C'est une présentation, c'est une prédication de l'Évangile. Pierre vient d'exposer l'Évangile à Corneille et à sa famille. C'est donc la révélation ou l'action transformatrice. Une situation initiale, un nœud, une attente de Corneille et de sa famille, et une transformation, une révélation. Pierre comprend qu'aucun homme est impur, et il annonce l'évangile à Corneille et à sa famille. Dénouement. Le récit mentionne, à partir du verset 44, le récit mentionne que l'Esprit intervient alors que Pierre était en train de prêcher, était en train de prononcer ces mots. La descente du Saint-Esprit est une surprise pour Pierre et pour les non-juifs et pour les juifs qui l'accompagnaient. Cette descente de l'Esprit est confirmée par une manifestation visible et audible. Ils entendent les non-juifs parler en langue et glorifier Dieu. Ce don de l'Esprit est un acte divin, et montre que Dieu lui-même approuve et atteste la conversion de Corneille et de sa famille. Le don du Saint-Esprit est un acte divin et Dieu est en train d'attester la conversion de Corneille et de sa famille. Et nous passons à la situation finale. Ce sont les versets 47 à 48. Pierre pose alors une question rhétorique. Donc cette question rhétorique, est-ce qu'on peut refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit, comme nous ? C'est une question rhétorique parce qu'en fait, elle n'attend pas de réponse. Pierre comprend que c'est un signe intangible du Seigneur. Le Seigneur a parlé. Il a parlé par son esprit. Le Seigneur a confirmé. C'est un signe intangible de la part du Seigneur que Pierre ne peut pas remettre en doute. Il ordonne donc que tous soient baptisés au nom du Seigneur. Ainsi, dit le texte, ils demeurèrent quelques jours à Césarée. On revient à la situation initiale avec une transformation. On est à Césarée avec Pierre et Corneille. Dans la situation initiale, à Césarée, Pierre était avec Corneille, mais avec une transformation qui est évidente et qui est assez flagrante. Corneille n'est plus seul avec ses proches, mais avec Pierre et les amis juifs. C'est une transformation. On n'est plus dans cette situation initiale où seule la famille de Corneille, donc les non-juifs, étaient à Césarée. Mais il me semble que le récit nous indique, et c'est pour ça que je pense que l'auteur n'a pas écrit pour rien, qu'ils demeurèrent quelques jours avec eux. Il me semble que le texte veut mettre l'accent sur le fait que avec cette communauté non-juive, Corneille et sa famille, vient se joindre la communauté juive, représentée par Pierre et les trois juifs. Résumons la scène pour tirer quelques conclusions. Résumons cette scène pour tirer quelques conclusions. Le récit d'Actes 10 rapporte une rencontre préparée divinement et orchestrée divinement. Deux protagonistes, l'un représentant le judaïsme, l'autre représentant le paganisme. Au cœur de cette rencontre se trouve une attente, l'attente de Corneille. Corneille attend quelque chose. Et derrière cette attente se pose en fait une grande question. C'est la question de l'accès des non-juifs au salut. C'est la question de l'entrée des païens au royaume de Dieu. Le discours de Pierre, qui est central, qui correspond à la révélation sur ce schéma, le discours de Pierre est une réponse évidente à cette question. Pierre le reconnaît, Dieu est impartial et Dieu ouvre des portes à quiconque, ou les portes du royaume à quiconque croit en Jésus, car il reçoit par le nom de Jésus le pardon des péchés. Corneille et sa famille ont non seulement fait cette démarche, ils ont fait cette démarche de foi. Corneille et sa famille sont des non-juifs, mais le texte donne une description qui est quand même assez étonnante. Ce sont des non-juifs qui craignent Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient quelque part une très bonne connaissance du judaïsme. Ils connaissaient ce que c'est qu'avoir la foi en Dieu. Mais me semble-t-il, ils ne connaissaient pas encore Jésus-Christ. Et dans cette foi qui est humble, qui est aussi sincère, me semble-t-il, tel que le texte le décrit, ils avaient besoin de Jésus-Christ. Et il me semble qu'à travers la révélation, la transformation, la prédication de Pierre, Pierre est simplement en train d'apporter Jésus-Christ pour que cette foi qui a commencé, qui est née en Corneille et dans sa famille, elle puisse être portée à son comble. Et c'est à l'écoute et en entendant le message de l'Évangile qu'il peut y avoir transformation, il peut y avoir conversion. Et c'est pour ça que le message de Pierre me semble central. Donc Corneille et sa famille ont non seulement fait cette démarche, mais ils vivaient déjà les vérités de l'Évangile. Et Dieu confirme l'accès des non-juifs au salut en donnant l'Esprit. Le don de l'Esprit, c'est Dieu a parlé et Dieu a confirmé que cette conversion est possible. Pierre et les non-juifs reconnaissent à leur tour officiellement cette décision. Et en fait, c'est le baptême. Le baptême implique que Pierre et les juifs reconnaissent ce signe de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu a accepté les païens, les non-juifs, dans son royaume. Et c'est une révolution copernicienne, non seulement pour Pierre, mais aussi pour tout le judaïsme de son temps. C'est une révolution. 2000 ans après la promesse faite à Abraham, le plan de Dieu prend une nouvelle direction. Les nations, les non-juifs, vont enfin pouvoir accéder à la promesse. Revenons à Copernic. Le monde du temps de Copernic et ensuite de Galilée n'était pas prêt à accepter la thèse du géocentrisme, la Terre au centre. Et c'est vrai, la thèse copernicienne est censurée en 1616 par le pape Paul V. Et Galilée est condamné à la prison à vie. Galilée est condamné à la prison à vie en 1633 devant le tribunal de l'Inquisition catholique romain. Mais Dieu, dans son plan merveilleux, a préparé les cœurs et a transformé les pensées. L'ouverture du salut aux nations a sonné et Dieu a décrété lui-même cette ouverture. Et c'est ce que nous allons lire aussi à la fin du chapitre, au chapitre 11, verset 18. Les apôtres à Jérusalem, on n'a pas lu ce texte, vous pourrez le relire. À Jérusalem, les apôtres et les frères glorifieront Dieu en entendant le rapport de Pierre. Et ils confessent que Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Le verset 11-18. Et c'est ce que Paul aussi reconnaîtra et confirmera en Éphésiens 3-6. Et je lis Éphésiens 3-6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs. Les non-juifs sont cohéritiers des juifs. Qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse en Christ par l'Évangile. Juifs et non-juifs sont cohéritiers, ils forment un corps et participent à la même promesse en Christ par l'Évangile. C'est technique, c'est très précis. Quelques applications tirées pour nous aujourd'hui. Proposition d'application. J'aimerais simplement nous poser cette question. Question toute simple. Y a-t-il un Corneille près de chez nous? Ou plutôt, reconnaissons-nous les Corneilles que Dieu a placées sur notre chemin afin que nous puissions leur faire connaître l'Évangile? Ça demande peut-être une transformation, un changement de mentalité, de pensée. Et c'est ce qui s'est passé en fait à travers ce récit. Pierre a eu un changement de mentalité, de pensée. Moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que j'étais comme ce Corneille. Mais Dieu m'a donné accès au salut par Jésus-Christ. Je ne suis pas juif. Je suis un non-juif. Je rends grâce à Dieu parce que j'étais comme ce Corneille, mais Dieu m'a donné accès au salut par Jésus-Christ. Et j'ai pu entendre l'Évangile par des pierres. j'ai pu entendre l'évangile par des pierres que Dieu a placées sur ma route. Et Dieu a placé sur ma route ces pierres il y a 10 ans. Ouais. Ouais. Il y a 10 années, et j'ai pu entendre l'évangile. Ouais. Dieu n'a pas agi du haut du ciel, et je n'ai pas entendu sa voix, mais il y a eu des pierres sur ma route. Et j'ai entendu l'évangile grâce à ces pierres. J'aimerais simplement donc vous reposer cette question. Y a-t-il des corneilles près de nous? C'est-à-dire, y a-t-il des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile? Deuxième question d'application, elle concerne nos GBU. Nos GBU sont-ils des lieux où celles et ceux de l'extérieur peuvent librement venir entendre l'évangile? Nos GBU sont-ils des lieux où celles et ceux de l'extérieur peuvent librement venir entendre l'évangile? Ou ressemblent-ils davantage à des groupes de jeunes qui sont contents d'être ensemble, qui se retrouvent dans un espèce de cocon hermétique? Ouais. Est-ce que c'est ça nos GBU? Ouais. Nos GBU sont-ils des lieux où les non-chrétiens peuvent venir et entendre fidèlement l'évangile? Pas seulement entendre, mais voir l'évangile être vécu. Ouais. Voir l'évangile être vécu. Voir les vérités de l'évangile être incarnées et réalisées. J'aimerais finir avec cette parole du réformateur Martin Luther. Luther a dit de cette histoire qu'elle est devant nos yeux comme un beau soleil. Luther a dit que cette histoire est devant nos yeux comme un beau soleil. Nous y voyons à l'œuvre ce Saint-Esprit dont Christ dit qu'il souffle où il veut. Les Actes des Apôtres, chapitre 10. Cette histoire est comme un beau soleil aux yeux de Luther. Et j'espère que cette histoire, pour nous aussi ce soir, est comme un beau soleil. Prions ensemble. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Père, merci de ce que tu nous as donné accès au salut par Jésus-Christ. Tu ne nous as pas exclus de ton royaume et nous pouvons aujourd'hui librement y entrer grâce à Jésus. Nous te louons pour toutes les pierres qui font connaître ta parole et ton salut. Seigneur, aide-nous à reconnaître les corneilles que tu places devant nous. Au nom de Jésus. Amen.